Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Intramuros, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Luciani, réalisée par Cédric Ossire. La fiction d'aujourd'hui s'inspire de faits réels. C'était dans les années 60, dans un petit village du sud de la France, un prêtre y officiait depuis 3 années. Il vivait avec sa sœur, au centre du village, dans le presbytère. Mais un jour, certaines langues se sont déliées, accusaient le prêtre et sa sœur d'être en réalité amants. Les rumeurs enflaient vite dans le village et celui-ci se retrouva divisé en deux. D'un côté, les accusateurs, outrés par les agissements et mensonges supposés du prêtre, et les autres essayant de comprendre et voulant l'aider. Quelques mois plus tard, la prétendue sœur se retrouva enceinte et le couple dut partir, quitter la paroisse, déchu de son ministère et réduit à l'état laïque, comme le précise l'Église. On ne sut jamais ce qu'ils sont devenus. Longtemps, l'Église catholique a ordonné des hommes mariés, oui. C'est à partir de la réforme grégorienne au XIe siècle qu'elle a imposé peu à peu à ses prêtres le célibat initialement réservé aux moines. Depuis, l'Église catholique a changé. Elle doit faire face aujourd'hui à plusieurs problèmes, dont la baisse constante de la pratique religieuse, les églises se vident et les prêtres vieillissent. De plus, les catholiques qui s'engagent le font de plus en plus en réaction. Lutte contre l'IVG ou pour l'école libre, manif pour tous et contre la PMA, une dérive catho-identitaire semble s'opérer en ce début de XXIe siècle. Des luttes qui font réagir certains commentateurs chrétiens progressistes, comme Henri Tinck, ancien journaliste au Monde, qui, dans son dernier livre, intitulé « La grande peur des catholiques de France », paru chez Grasset, écrit « Je ne reconnais plus mon Église, et j'ai peine à me reconnaître dans l'Église de France aujourd'hui. Elle me semble avoir renoncé à une part essentielle de son histoire, de son humanité, de sa tradition sociale, progressiste, œcuménique, missionnaire. » Pour aborder ces notions très sensibles, nous recevrons, après la fiction, David Gréa, prêtre, marié, heureux, auteur du livre « Une nouvelle vie aux arènes ». Je viens de dire « prêtre marié ». C'est étrange. Bien dans une demi-heure, vous comprendrez pourquoi.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Intramuros, de François Luciani.
On m'avait bien prévenu. Le père Bonny n'est pas du genre facile. Depuis le temps à Pianosa, il avait pris ses habitudes, bonnes ou mauvaises, et il n'avait guère envie d'en changer. Il savait la raison de ma venue sur l'île, et je m'attendais au pire. Pianosa, c'est une de ces îles-prisons qu'on aperçoit au loin quand on vient de Corse ou de Sicile. Un misérable lopin de terre sèche au milieu de la mer, où l'on ne s'arrête jamais. Ce matin-là, à bord du Grimaldi, il y avait de tout. Des militaires qui venaient prendre la relève au poste de commandement, des femmes, toutes vêtues de noir, qui ramenaient les provisions du continent, des hommes, aux visages creusés par le vent et le sel, quelques têtes de bétail, et des prisonniers menottés, respirant à plein poumon l'air de la mer et les embruns comme s'ils les volaient une dernière fois avant de gagner leurs cellules et purger leur peine. C'était un dimanche, le 1er juillet 1962.
Jonathan ?
Oui ?
C'est moi, Maria. Ah. Vous avez fait bon voyage ? Vous avez l'air tout pâle.
Les vapeurs de poisson et de gasoil, vous me pardonnerez.
Je crois que j'ai...
Ça ne réussit pas beaucoup.
Vous n'avez rien mangé sur le bateau ?
Une pomme et un kimono de pain.
Ça vaut mieux plutôt que de tout rendre.
J'en ai encore le tournis.
Antoine vous attend. Je vous ai préparé une chambre à l'étage. Donnez-moi plutôt votre sac.
C'est très gentil, mais je peux encore me débrouiller tout seul.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'Algérie ?
Moi ? Bah...
Les musulmans, ils sont contents, mais les Français, eux...
Les Algériens sont chez eux, hein. Ils font ce qu'ils veulent, non ?
Antoine, lui, la politique... Ça le passionne.
Ah bon ?
Antoine ?
Il est un peu rude, mais il n'a pas un mauvais fond.
Tu m'entends ? Jonathan est là !
Le père Bonny, c'était une force de la nature. Un faux air d'Anthony Quinn dans Barabbas, la barbe drue, les traits creusés par le soleil, il bêchait son potager, torse nu, en plein midi, comme si la chaleur n'avait aucun effet sur lui, ni sur ses mains, larges comme des battoirs, ni sur sa peau, couleur ocre, qui se confondait avec la terre sèche qu'il soulevait. Quand il m'a vu, il n'a même pas levé le nez pour me saluer. Il a juste sorti une fillette de vin rouge qui traînait à l'ombre d'un figuier, et il en a bu une rasade au goulot.
Tu veux une lichette ? C'est du vin de messe, hein ?
Non, merci. Je ne bois pas d'alcool.
Ah, t'as rien appris au séminaire ?
J'ai appris d'autres choses.
Tu m'as l'air bien coincé, hein ?
Moi ?
Hé, hey, Maria ! Maria, viens voir. Jo voudrait un verre à pied pour se rincer, il fait des chichis. Tu permets que je t'appelle Jo, n'est-ce pas ?
Mon nom est Jonathan. Jonathan Barou.
Très bien, Jo. Tu connais ma sœur ?
Pardon ?
Ouais. Je te présente ma sœur, Maria.
Je vous avais prévenu, elle est toujours comme ça.
Je ne savais pas que...
Que quoi ?
Que vous aviez une sœur.
Tu vois, Jo, à Pianosa, c'est une affaire de famille. On est heureux ici, on demande rien à personne. N'est-ce pas, Maria ?
Si tu le dis...
Allez, on trinque à ta venue, Jo. À la santé du pape et du Saint-Esprit.
Vous savez ce qu'on dit de vous à l'évêché ?
Vaguement.
Que vous vivez comme un mécréant. Que vous êtes un voyou et un saltimbanque.
Non, c'est tout.
Que vous êtes un mauvais curé. Que vous dites la messe comme bon vous chante. Et le reste aussi.
Bon, et quoi encore ?
On dit aussi que vous donnez le mauvais exemple aux prisonniers. Que vous les encouragez à faire les mauvaises têtes, que vous leur donnez du vin, des provisions, que vous leur pardonnez tout.
Mais bon, et alors ?
Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas en odeur de sainteté.
Qu'est-ce que ça change ?
Ça change que l'évêque a demandé votre rapatriement sur le continent.
Non, ce sera pas la première fois.
Cette fois, c'est pour de bon. Votre temps est fini ici, Antoine. Je suis chargé de prendre la relève avant que les choses ne s'enveniment.
Vraiment, t'as pas soif ? Même pas une petite goutte ?
Et cela ne vous fait rien ?
Pas plus que l'eau sur les plumes d'un canard. Et grâce à Dieu, l'eau glisse sur les plumes.
Ce genre de parabole ne m'impressionne pas, vous savez. Vous feriez bien mieux de respecter le sacerdoce, sans chercher à faire le malin.
Tu comprendras plus tard, petit.
Inutile d'insister. Il est têtu comme une bourrique. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Ça vous a plu.
Un filet d'eau jaune, un lavabo douteux, une toilette de chat, des murs peints à la chaux, un lit, une table, une lampe de chevet. C'est tout. Un parfum de myrte, de thym et d'eucalyptus vient du jardin. Antoine est encore au travail. Il manie la pioche comme un forçat accroché à la terre.
À table ! C'est prêt ?
J'arrive !
Ouais, serre-le, il est maigre, la pose sur les os.
Vous voulez encore du ragoût, monsieur Jo ?
Non, merci.
Et ici, on mange ce qu'il y a sur la table, on sait pas de quoi demain sera fait.
Tu vas pas gaver tout de même, je te dis qu'il n'a plus faim.
Hé, Momo, tu peux partir, hein, j'ai plus besoin de toi.
Merci, mon père.
Je t'ai déjà dit de pas m'appeler mon père, tu m'appelles Antoine, c'est tout, t'es musulman, n'oublie pas.
Très bien, monsieur Antoine.
Bon, allez, file, et à demain, hein. Qui peut être bête, c'est pas possible.
Il a l'air gentil. D'où vient-il ?
Mostaganem. Ah. Les Français l'ont passé à la Gégène pour savoir où se cacher son père. Un gars du FLN. Il a rien dit pour la bonne raison qu'il savait rien. Et ils l'ont condamné à 3 ans ferme.
À Pianosa ?
Liberté surveillée. Ils vont bientôt le lâcher à cause du référendum.
Pourquoi il sert à table ?
Il faut bien qu'il se rende utile, hein. Ça te dérange ?
Oui.
Ouais, mais ici, c'est comme ça. Il mange, il sert, donnant, donnant.
Il dort où ? Ici ou en cellule ?
À ton avis.
J'ai un doute.
Dans mon lit?
C'est ce qu'on dit à l'évêché.
Ah, et toi, tu crois ce qu'on te dit?
On dit que vous avez des relations très proches avec les jeunes détenus. C'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Antoine, arrête, tu exagères.
Des relations comment?
Mais j'essaye de les aider, je suis là pour ça.
Mais encore?
Je les baise. Où est le mal?
Ça vous amuse de vous moquer de moi, c'est ça? Vous me prenez pour un idiot?
Tu vois, Joe, je crois que tu feras un bon évêque.
Et en plus, vous insultez l'église.
Oui, un évêque bien droit dans ses bottes. Hein. Tu sais, un de ces gras du bide à l'œil vitreux. Le petit doigt sur la couture de la soutane. Il te manque que le rubis à l'index et un peu de ventre pour bien leur ressembler.
Antoine, laisse-le tranquille, tu exagères.
Moi, j'exagère, alors qu'il me traite de pervers.
Je pose des questions, c'est tout.
Et toi, Jo, tu baises?
Fichez la paix. Ça suffit comme ça.
Vous avez raison, Maria. Je crois que je vais aller dormir.
Comment le père Bonny a-t-il pu rester 20 ans sur cette île sans jamais être inquiété? Qui est-il? Un simple curé aux habitudes louches ou bien un de ces êtres pervers qui usent de la protection de l'église pour donner libre cours à leurs penchants? Pourquoi creuse-t-il ainsi ces trous étranges avec tant d'ardeur jusqu'au coucher du soleil dans le potager? Que cache-t-il? La chaleur est enfin tombée. Un filet d'air rafraîchit les murs encore chauds, mais impossible de fermer l'œil.
Monsieur Jou, c'est Momo.
Entre.
Il y a du café chaud, un verre de lait et une figue du jardin.
Merci Momo, c'est très aimable.
C'est de la part du père Bonny. Vous avez passé une bonne nuit?
Oui, et toi?
Comme d'habitude.
Tu peux me rendre un service?
Oui, bien sûr.
Est-ce que tu peux me dire combien il me reste de crayons à papier dans ma valise?
Oui, bien sûr. Il y en a 7.
Plus un sur la table, ça fait...
8.
Si je t'en donne 2, il en reste combien?
6, bien sûr.
À la bonne heure. Je vois que tu comptes bien.
Tout de même, à mon âge.
Tu as quel âge, Momo?
Certains disent 20, d'autres 21. En fait, je ne sais pas exactement.
Alors tu ne sais pas si tu es majeur ou mineur?
Non. Depuis que ma mère est morte, ils ont perdu les papiers, alors...
Tu peux m'écrire ton nom sur la feuille? J'essaierai de me renseigner.
D'accord.
C'est le père Bonny qui t'a appris à écrire?
Et à lire, aussi. C'est quelqu'un, vous savez. Heureusement qu'il était là, sinon...
Sinon quoi?
Je ne sais pas ce que je serais devenu.
Tu n'as jamais eu à te plaindre de lui, n'est-ce pas?
Sûrement pas. Pourquoi?
Pour rien.
Il m'a tout appris.
C'est très bien. Merci, Momo.
Pas de quoi, monsieur Jo.
Momo?
Oui, monsieur Jo.
Pourquoi creuse-t-il ainsi dans le jardin?
Je sais pas, monsieur Jo. Il creuse des trous, c'est tout.
Avait-il des secrets à soustraire des regards? La preuve de ses crimes? La terre est si ingrate par ici. Le soleil cogne si dur. Pourquoi creuser ainsi dans la poussière à longueur de journée? J'aperçois Maria de loin. Elle me fait un petit signe de la main, la lessive du matin dans les bras. Des draps, des chemises, des culottes et même des dessous. Sans doute les siens, puisqu'elle est la seule femme au presbytère. Une silhouette fine, précieuse. Elle a cette délicatesse de trait des femmes du Sud. Le teint clair, une longue chevelure brune et les yeux d'une couleur changeante selon la lumière, tantôt bleu, tantôt vert. Étrangement, je ne lui vois aucune ressemblance avec son frère Antoine. Autant le père Bonny porte haut, un bon 1m80, un corps de gladiateur, carré, costaud. Autant Maria est fragile, longiligne. J'ai bien du mal à trouver entre ces deux-là un air de famille. Mais la nature, parfois, réserve bien des surprises.
Je peux vous aider, Maria?
Ne vous en faites pas, j'ai bientôt fini.
Je vous regardais depuis la fenêtre. Franchement, vous faites beaucoup plus jeune que votre frère.
Ah, vous trouvez?
Oui, vraiment.
C'est gentil. Nous, les femmes, on se fane si vite.
Les hommes n'échappent pas non plus à l'épreuve du temps, vous savez.
Oui, mais à eux, on leur pardonne, à nous pas. N'est-ce pas?
Vous avez raison. C'est injuste.
Je peux vous demander un service?
Bien sûr, Maria.
C'est une chose délicate.
Allez-y.
C'est vous qui direz la messe dimanche, n'est-ce pas?
Oui, c'est convenu ainsi.
Je voudrais pouvoir communier.
C'est bien. Et alors?
Ça fait si longtemps que je ne me suis pas présentée devant Dieu. Il n'y a pas de prêtre sur l'île, en dehors de mon frère, vous voyez. Et j'aurais bien du mal à lui confesser mes péchés.
Pourtant, l'absolution transcende tout.
Je sais bien, mais...
Je vous confesserai bien volontiers.
Ce soir après les vêpres?
Quand vous voudrez, Maria.
Jonathan, si vous saviez comme vous me soulagez. Voilà. Il m'est arrivé de pécher par gourmandise.
Dites.
J'ai désiré des sucreries alors qu'elles appartenaient à autrui.
À qui?
Une voisine.
C'est tout?
Oui.
Mais encore.
J'ai aussi commis le péché de chair.
Dites.
Il m'est arrivé de fauter.
Soit.
Mais...
Mais quoi?
Avec un homme.
Soit.
Un homme marié.
Vous avez commis le péché d'adultère?
Je le crains, oui.
C'est grave, Maria. L'adultère est un péché mortel.
Je le sais, mon père.
Je prierai pour vous de toute mon âme.
Ce n'est pas tout.
Ah?
Mon père.
Oui?
Je crois que j'attends un enfant.
En êtes-vous sûr?
Je le crois, oui.
Voilà une excellente nouvelle. Qui en est le père?
Un homme marié, je vous l'ai dit.
Seigneur.
Il paraît que sur le continent, certaines femmes permettent à d'autres femmes de...
Vous n'y pensez pas, j'espère.
Non, mais...
Si vous y pensiez, malheureuse, la porte de l'église vous serait fermée à jamais.
Vous feriez cela?
Vous seriez excommuniée.
Mon Dieu.
Que Dieu vous montre sa miséricorde. Vous donnerez la vie à cet enfant et il sera béni. Je prierai pour vous, Maria.
Pardonnez-moi, je vous en supplie.
Je vous pardonne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En pénitence, vous direz trois « Je vous salue Marie » chaque matin jusqu'à la naissance de l'enfant.
Maria, apporte-moi l'arrosoir.
Je ne peux pas.
Comment ça, tu peux pas, mais qu'est-ce que tu fabriques?
Je prie.
Non, tu te fiches de moi?
Non, je prie.
Apporte-moi l'arrosoir ou je vais me fâcher.
Tout à l'heure.
Maintenant.
Non. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles. J'arrive.
Eh bien, on aura tout vu.
Seigneur, prends pitié de nous.
Ne fatigue pas, il n'y a personne à part nous. Tu prêches dans le désert, Joe.
Vous ne respectez rien, n'est-ce pas?
Tu crois que les fidèles vont rappliquer comme ça à la messe d'un coup de baguette magique par la vertu du Saint-Esprit? Ils ont faim, ils ont soif, ils sont dans la merde. Tes chansons, ils s'en foutent.
Vous blasphémez.
Allez, manger, boire, dormir, lire, compter, avoir des soins quand ils sont malades. Voilà ce qu'ils veulent, les fidèles. Pas des paroles d'évêque. Viens, Maria, on s'en va. Momo, tu peux rester si tu veux. Il s'en fout, il est musulman.
Vous êtes vexé? C'est comme ça.
Il ne faut pas lui en vouloir. Il n'a pas tort, vous savez. Les gens ici, ils ont leurs habitudes.
Pourquoi t'es pas parti avec lui ?
Ici, c'est calme. Il fait frais. J'aime bien l'odeur des bougies.
Le père Bonny n'avait pas entièrement tort. Le sacerdoce à Pianosa n'est pas une simple sinécure. Donner les sacrements, mariage, baptême, extrême onction, assister aux naissances, accompagner la mort dans des territoires hostiles, alphabétiser les prisonniers, apprendre à lire, à compter, enseigner l'évangile, tout cela demande du temps, de la force et beaucoup d'énergie. En aurais-je assez ? Je commençais à mieux comprendre les épreuves qu'avait dû endurer le père Bonny tout au long de ces années. La dureté de la vie sur l'île.
Antoine ? Mais qu'est-ce que vous faites ?
Ben, je change le calvaire de place, ça se voit pas.
Mais pourquoi ?
Ben, c'est le seul endroit où j'ai pas creusé. S'il y a une source, elle peut être que là. Alors je creuse.
Mais vous me disiez vous-même que l'emplacement était sacré ?
Ben, j'ai changé d'avis.
Et vous allez le mettre où, le calvaire ?
Ben, là-bas, au fond. J'en suis sûr, là-bas, il n'y a pas une seule goutte d'eau.
Vous voulez un coup de main ?
Je veux bien. Et si t'as pas peur de te salir les mains, hein ? Allez.
Antoine ?
Mais lève, nom de Dieu !
Je voulais m'excuser auprès de vous.
Pourquoi donc ?
Je crois que je vous ai manqué de respect.
Comment ça ?
Je vous ai soupçonné de choses injustes et insultantes. Je voulais m'en excuser.
Qu'est-ce que tu me caches encore ? Un coup tordu, hein ?
Mais non, j'ai parlé avec Momo, et il m'a dit le plus grand bien de vous.
Bien, soit !
Voilà. Je m'excuse.
Eh ben, c'est bien, Jo. T'es sur le chemin de la sainteté, hein ?
N'exagérons rien.
Ah, mais soulève, nom de Dieu ! On n'est pas confesse, espèce de mauviette, là. T'as rien dans les bras ou quoi, là ? Allez !
Les apparences sont parfois trompeuses. Les rumeurs, les non-dits. Tout cela peut faire tant de mal.
Ah, bah, ça, c'est plus fort que toi, hein, n'est-ce pas ? Bavassé. Ah. Mais s'il y a de l'eau là-dessous, dis-toi bien qu'elle viendra pas toute seule. Mais soulève, nom de Dieu !
Je fais que ça.
Ah là, là.
Nous avons passé la journée entière à lutter avec ce satané calvaire. Le soir tombé, je suis rentré dans ma chambre épuisé, mais soulagé. J'avais dit à Antoine ce que j'avais à lui dire, et cela, j'en suis sûr, lui est allé droit au cœur. Mais dans la nuit, j'ai entendu des bruits étranges, des pas, des paroles chuchotées qui venaient de la chambre de Maria. J'ai approché mon oreille, et j'ai eu la confirmation de ce que je savais depuis le premier jour.
Antoine, j'ai tellement peur.
Il est temps de partir, Maria.
Inter, actualité.
2 juillet 1962, une Algérie nouvelle vient donc de naître à une majorité écrasante puisque 99% des votants ont dit oui à l'indépendance dans la coopération. Et dans un calme qu'on osait espérer, il y a à peine une dizaine de jours. 2 juillet 1962, le chancelier Adenauer...
Monsieur Jou, c'est Momo.
Entre.
Je vous apporte du café. Et de nouvelles.
Commence par la meilleure.
Ils ont dit oui. Alors je vais rentrer chez moi.
En Algérie ?
Oui.
Mais où ?
Je ne sais pas encore.
Tu sais où est ta famille ?
Je la trouverai. Il y a sûrement des cousins.
Marseille, Alger, Oran. Ce sera un beau voyage.
Sûrement, monsieur Chaud.
Et l'autre ?
Antoine m'a laissé une lettre pour vous. Vous ne l'ouvrez pas ?
Pourquoi apprendre ce que je sais déjà ?
Le lendemain, j'étais sur le port. Parmi la foule des passagers, Momo se préparait à embarquer.
T'as pas beaucoup de bagages, dis-moi.
Seulement quelques habits.
Tu n'as pas vu Antoine ?
Je crois qu'il est là-haut, sur le pont. Avec Maria, regardez !
Fais attention à toi, Flo !
Je lui ai crié de loin.
Et si c'est un fils ? Comment allez-vous l'appeler ?
Ma question est restée sans réponse. Je les ai vus s'éloigner sur la passerelle, avec leur maigre paquetage. Maria m'a fait un petit signe de la main, comme à son habitude, avant de monter sur le pont supérieur. Puis les marins ont largué les amarres, et le Grimaldi s'est lentement éloigné vers le large. Il a disparu à l'horizon après quelques coups de corne de brume. J'ai décacheté alors l'enveloppe qu'il m'avait adressée. Ce n'était que quelques mots posés d'une écriture fine et appliquée.
Mon cher Joe, libre à toi de juger, libre à toi de punir, libre à toi de tout dire, libre à toi aussi de garder le secret. Tu le sais, je n'ai que peu d'éducation, ni aucune famille, ni sœur, ni frère, ni parents. Je ne sais de quoi l'avenir sera fait, mais j'ai choisi de vivre. Je ne doute pas que tu sauras nous accorder ton pardon, pour Maria et moi-même, au nom de l'amour. Nous avons choisi son prénom. Si c'est un fils, ce sera Joe. Et si c'est une fille, nous verrons bien. Antoine Bonny.
J'ai marché le long de la mer, jusqu'au calvaire du presbytère, et j'ai regardé la terre du jardin. Étrangement, il y avait une trace humide à l'ancienne place de la croix. J'ai soulevé un peu de terre avec ma main, et un mince filet d'eau s'est mis à couler doucement. Antoine avait raison. La source était là. Il m'avait offert l'eau, toute sa fortune. Le souvenir de nous deux, âprement attelé à une tâche d'irrespect, fit surface. Au fond, j'en étais fier. Le fruit de leur amour sera mon secret, à protéger toujours, par respect pour eux, sans autre jugement. Il y avait tant à faire. Il me restait maintenant à affronter le sentiment étrange des prisonniers de Pianosa. Ce sentiment d'abandon, de misère et de solitude, comme le père Antoine Bonny l'avait affronté avant moi pendant toutes ces années. Intramuros.
Intramuros, de François Luciani, avec Laurent Dols, Romain Lemire, Caroline Breton, Julien Héricot et Sophie Gubry. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Arnaud Chapat. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Ossire.
But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
God only knows what I'd be without.
God only knows what.
affaires sensibles, la fiction.
Il est marié, il a 3 enfants. C'est un prêtre réduit à l'état laïque. Ils sont 700 en France, 10 000 dans le monde sur 400 000 qui depuis 5 ans se sont mariés. À Lourdes, samedi dernier, pour la première fois ouvertement, les évêques de France ont abordé, au cours d'une réunion commune avec des prêtres, le problème du célibat ecclésiastique. La remise en cause du célibat par certains, une minorité en France et en Espagne, une majorité en Hollande comme en Amérique du Sud, n'est qu'un des aspects de cette transformation du sacerdoce. Ce témoignage constitue une des pièces d'un dossier brûlant.
Vous êtes resté prêtre combien de temps ?
15 ans.
Comment s'est passée la rupture ? C'était foudroyant ou c'est une...
Non, rien de foudroyant. C'est en m'apercevant par le biais de la philosophie que l'institution ecclésiastique n'était pas acquise pour toujours, que peu à peu j'en suis venu à ne plus me voir confessant, ne plus me voir célébrant. Et j'en ai tiré la conclusion moi-même. Lorsqu'on aura vu l'Église s'effondrer, peut-être on construira du neuf qui ne sera plus cette institution trop parfaite dont personne ne veut, mais qui sera plus souple, plus dynamique, plus orientée vers le service des hommes.
Juridiquement rejeté des sacrements, banni, entre guillemets, est-ce que vous vous sentez encore lié à l'Église ?
Oui. Je pense qu'il ne dépend pas d'elle de me rejeter. Je ne serai rejeté que si je m'en rejetais moi-même. Or, je ne le fais pas.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui intramuros, notre invité, David Gréa, prêtre, marié, heureux, auteur du livre « Une nouvelle vie » aux éditions Les Arènes. Bonjour David Gréa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes, comme vous l'écrivez, prêtre, marié, heureux. Alors c'était un peu un mystère hein, quand je l'ai annoncé tout à l'heure. Comment ça ? Prêtre, marié, c'est pas possible. Vous êtes un enfant du catholicisme social. Vous êtes diplômé en philosophie et en théologie. En 2011, vous prenez en charge une paroisse du centre de Lyon en tant que prêtre. Hein. À partir de là, vous bousculez les codes et vous réfléchissez au célibat des prêtres. Puis... vous rencontrez Magali, c'est bien ça ?
Oui.
Et vous vous mariez au printemps 2017, là, il y a un an. Alors, c'est un résumé très rapide que nous allons évidemment approfondir avec vous. Mais je voudrais d'abord vous poser cette question qui va répondre au mystère de tout à l'heure. Marié et prêtre, c'est ce qui est marqué sur votre livre. Hein, Père David Gréa, une nouvelle vie, prêtre, marié, heureux. C'est quoi ? C'est de la provocation ?
Non, pas de ma part. Même si la couverture est mise en page par l'éditeur. Mais prêtres, on l'est à vie. C'est-à-dire que c'est comme le baptême, en fait. On peut très bien, si on a reçu le baptême bébé, ne pas l'honorer, ne plus croire, ne pas en faire cas. Mais on est baptisé. Ben, en fait, prêtre, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est prêtre à vie, c'est un sacrement. Et ensuite, ben, il se trouve que j'ai choisi de me marier et que dans tous les cas, avant et après, j'étais heureux.
Bon, alors, racontez-nous comment s'est passée la transition entre l'état de prêtre et officiellement plus de prêtre, puisque vous êtes marié, oui. Même si dans votre esprit et dans votre cœur, vous êtes toujours prêtre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et comment ça s'est passé ?
C'est quand même une longue histoire, c'est pour ça que j'ai écrit un livre.
Oui, effectivement. Mais comme le moment où vous passez cette frontière-là, et notamment, ce que je voudrais surtout savoir, c'est la réaction de votre hiérarchie.
D'accord.
C'est ça.
En fait, il se trouve que moi, j'arrivais en fin de mandat. Souvent, les prêtres, on est nommés 6 ans, notamment quand on est curé, quand un prêtre est curé. Donc, j'étais responsable d'une église, j'étais seul à mi-temps, d'une église qui était au début un peu moribonde. Et puis, qui par différents choix a fait qu'on est passé d'une centaine à près de 2000 paroissiens en 5 ans et demi. Et donc, j'arrivais en fin de mission et ça faisait déjà quelques mois que j'étais en couple avec Magali. Et je suis pas l'homme d'une double vie, donc je voulais m'assurer que c'était bien elle. Et une fois que j'étais convaincu que ce discernement a été opéré, j'ai évidemment décidé d'en parler au plus vite à mon évêque, afin de pas avoir à jouer ou à mentir pour une nomination éventuelle quelques mois plus tard. Et donc c'est à l'occasion, c'est un peu rocambolesque, parce que on est en Égypte tous les deux à l'occasion d'une rencontre œcuménique, et c'est à cette occasion-là, on a un petit peu de temps, et que je lui dis que vraiment je suis très heureux comme prêtre, je pense que je suis un des prêtres les plus heureux qui soit, et que je voudrais continuer, ben pas seul, pas célibataire.
Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Je dis ça parce que les auditeurs n'ont pas forcément lu le livre.
Non, non.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Pas encore.
Ah oui, pas encore.
En fait, c'est dans un chapitre qui s'appelle Anaphora, justement. C'est une communauté très, très inspirante. Et lui, il est évidemment très surpris parce que, et étonné parce que j'ai déjà eu l'occasion de lui faire part de ma difficulté à être heureux célibataire.
Ah, mais est-ce que vous le sentez blessé?
Affecté, bien sûr.
Ouais.
Parce que lui-même, en confidence, quelques années plus tôt, il m'avait dit, comme c'est une confidence qu'il a partagée à d'autres, qu'une de ses plus grandes douleurs de prêtre, c'est de voir dans les années 70 et suivantes des centaines et des centaines de prêtres, dont certains de ses amis, quitter le sacerdoce. Et de plus, ben, je suis un des prêtres qui est plutôt dynamique dans son diocèse. Et donc oui, il est ébranlé. Et on a un petit échange justement sur... je lui dis, enfin, je suis un peu surpris en fait, et puis... surpris qu'ils réagissent sans me dire, tu sais bien que c'est interdit, tu t'es engagé au célibat, de toute façon, t'as pas le choix, il faut que tu renonces à ça. Et pas du tout, en fait, il est plutôt ouvert au dialogue. Et là, je lui dis, en fait, vous êtes cardinal, quoi, vous en parlez entre vous, avec le pape. Mmh. Et il m'a dit, oui, Benoît XVI a soulevé deux fois la question, mais on a coupé court, en fait, assez rapidement. Et donc, non, on n'en parle pas.
Alors, puisque vous me parlez de pape, on est obligé d'aller un peu vite. Hein. Évidemment, on n'a pas le temps d'un livre. Vous avez été reçu par François?
Oui, parce qu'à ce moment-là, Mgr Barbarin, me disant ça, je lui dis, si vous voulez, moi, je vais le voir, le pape. Et il m'a dit, pourquoi pas. Et il a cette audace de solliciter un rendez-vous avec lui. Et donc, comme je raconte ça, je reçois un mail de Mgr Barbarin me transférant la réponse du pape une heure avant la messe de minuit de Noël et... me disant « Ok, pour rencontrer David ».
Et qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous rencontrez cet homme-là?
Tout d'abord...
Qui est pape, mais qui n'en est pas moins homme.
Exactement, c'est-à-dire que vous imaginez la pression qu'on peut ressentir à ce moment-là. Mais à peine il entre dans la salle et cette pression tombe. Un homme au regard franc, simple, à une main ferme, qui se dispose non pas en posture haute comme s'il était supérieur, mais au contraire très humblement. Il me dit, j'ai bien lu ce que tu m'as écrit, je lui avais envoyé un petit résumé de ma situation. Il me dit, mais j'aimerais t'entendre, est-ce que tu peux me raconter? Donc je parlais français, lui parlait italien, parce que je comprends bien l'italien et lui le français. Et on a commencé à... D'abord, il m'a écouté très longuement. Il m'a posé beaucoup de questions, très délicatement, en disant, j'aimerais te poser des questions, mais si ça te gêne, si ça te met mal à l'aise, tu réponds pas. Soit vraiment, il faut que tu répondes librement. Donc il a vraiment essayé de chercher déjà de... Il a été touché, j'ai bien vu, par le fait que je ne suis pas venu en militant, je ne suis pas venu dire « Moi, il faut que je continue absolument. »
Et puis le célibat des prêtres, il faut arrêter.
Voilà, l'église est nulle. Donc, ce n'était pas du tout ma posture. Moi, je lui dis « Voilà ce que je vis. Voilà ce qui m'arrive.
Ouais. »
Et je viens vous le partager.
Et au bout du compte, il vous dit quoi?
Alors, en fait...
Fais ce que tu ressens, fais en fonction de ta conscience.
Non, pas du tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est que peu de gens savent ça. Le pape, il a une autorité sur l'Église, mais qui n'est pas toute puissante. Hein. Il faut qu'il réunisse des gens pour changer les choses. Mais il n'a aucune autorité sur moi comme personne, comme prêtre.
Mmh.
Parce que seul mon évêque, ma plus haute autorité dans l'Église, c'est mon évêque, c'est pas le pape. Et donc, il m'écoute. Et in fine, il dit qu'il va échanger quelques mots avec Barbarin et il me renvoie vers lui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, Magali, que j'ai épousée quelques mois plus tard, m'avait dit « Tiens, j'ai écrit une lettre pour le pape, tu lui donneras en main propre. » Et bon, j'avais souri, elle est protestante, je me suis dit « Elle peut pas réaliser qu'on est plusieurs centaines de milliers de prêtres et que le pape a autre chose à faire. » Et ce jour-là, je dis au pape, en fait, Magali vous a écrit une lettre. Il me dit, tu l'as là? Oui, je lui donne. Il la lit. Et puis, quelques minutes après, il me dit, est-ce que tu accepterais qu'on se voit tous les trois? Et donc, on monte. Il me dit, à la fin de l'entretien, ça faisait presque une heure qu'on était ensemble. Il me dit, viens avec moi. Et là, on monte au deuxième étage chez lui.
Ouais.
Il ouvre son agenda. Il me dit, mercredi, c'est possible pour vous? Et donc, deux jours après, nous le revoyons avec Magali.
Et là, ça se passe. On n'a pas le temps, malheureusement, de rentrer une nouvelle fois dans la narration, mais globalement, ça se passe bien.
Oui, très très bien. On passe un long moment à prier ensemble.
Pensez-vous que l'une des prochaines grandes révolutions de l'Église, si tant est que l'Église soit apte à la révolution, elle est plutôt apte au conservatisme, d'ailleurs, elle le dit, l'Église, elle est assez franche là-dessus, elle a jamais prétendu non plus être une organisation démocratique, hein. Moi, cette franchise-là. Enfin, bref. Est-ce que vous pensez que si elle veut bien consentir à une révolution, ce sera celle d'autoriser le mariage des prêtres?
En fait, l'Église, elle évolue tout le temps. On dit semper reformanda, c'est-à-dire elle se réforme en permanence. Simplement, il y a 1,2 milliard de catholiques, donc pour bouger tout ce monde et toutes ces cultures, il faut un peu de temps. Évidemment, la révolution première, c'est que l'Évangile soit vécu, qu'elle soit vécue actuellement. C'est nous ce qu'on a vécu dans notre Église, c'est-à-dire changer de manière de parler, de vocabulaire, de pas changer, pas prendre un ton de curé quand on parle à des gens, pas se la jouer, en fait, vraiment vivre l'Évangile, mais le vivre vraiment tel qu'il est aujourd'hui. Et du coup, le plus important, c'est quand même que l'Évangile soit vécu, et à commencer par le service des gens les plus démunis.
Oui.
Mais cela dit, c'est pas indifférent, parce que le fait qu'on n'impose plus strictement le célibat à ceux qui sont appelés à être prêtres, je pense que ça aurait pour effet de casser une sorte de caractère extraordinaire, oui, on va dire clérical, qui fait que à un moment, ben, s'il y a plus le prêtre qui fait tout, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il change, si un prêtre part d'une paroisse, le suivant, il peut tout changer s'il veut. Et on voit bien qu'il y a une sorte de... Enfin, une paroisse, c'est un curé. Non, en fait, c'est pas ça. Une paroisse, c'est des gens marqués par l'Évangile, touchés par Jésus, qui mettent ça en œuvre. Et donc, je pense que toucher au célibat, à l'imposition du célibat, ce serait probablement rendre cette Église encore plus missionnaire et plus au service des gens.
Alors, ceux qui sont contre, au sein de l'Église, disent « Oui, mais un prêtre célibataire, il est disponible pour s'occuper de ses paroissiens. Et s'il est marié, eh ben, il est moins disponible. »
Non, mais c'est n'importe quoi.
Non, parce que j'imagine, mais enfin, ça se dit. Donc, je voulais confronter cet argument à votre conscience.
Non, mais en fait, ça tombe sous le sens que c'est pas le cas. C'est-à-dire que déjà, le prêtre, c'est un homme. Donc, si on lui parle mal, s'il a un conflit, s'il a un souci, si ses parents sont malades, si, vous voyez, s'il se casse la jambe, enfin, il va être aussi peu disponible que n'importe qui. Et qui va dans les hôpitaux, qui va visiter les prisons, etc. C'est des laïcs, c'est des chrétiens lambda qui sont d'un dévouement juste extraordinaire.
David Rea, on se retrouve dans 3 minutes, le temps d'écouter un disque. Et on revient sur votre itinéraire et celui d'autres aussi, hein, on a entendu dans l'archive tout à l'heure.
Parce qu'avec toi le temps a pris de nouvelles dimensions, que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction, parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments, et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment. Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop, et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans, c'est tellement long. Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble. Parce que je sais que le lundi, je vais te parler et te voir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Parce que je te chambre sur tes manies, mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts, mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort, et plus fort quand nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes. Et que chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux. Et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard, je vais encore juste de te rencontrer. Parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B. Après 10 ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde. Après 10 ans qui ont vu naître les 4 plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir.
David Gréa, une nouvelle vie, prêtre, marié, heureux. Voilà, c'est le titre de votre livre, et je le rappelle, on entend une archive tout à l'heure d'un cas qui aurait pu être le vôtre, mais 30 ans auparavant, c'est un 69, hein, oui. D'ailleurs, c'est plus de 30 ans, 69, et qui est aussi votre année de naissance.
Oui, ça, bon,
c'est 69. Un heureux hasard, voilà. Et on entend, il va être réduit, alors donc c'est un curé qui décide de partir. On emploie toujours cette expression très, très moche de défroquer.
Non,
on disait ça.
Bah, ceux qui disent ça, c'est des vieux, du coup, on les reconnaît.
Bon, voilà. Très bien. Et donc, il va être réduit à l'état laïque. Réduit à l'état laïque. Qu'est-ce qu'il faut comprendre?
En fait, aujourd'hui, on dit déchu de l'état clérical, c'est encore plus compliqué à comprendre. Mais ça signifie que le prêtre étant toujours prêtre, il n'a plus le droit d'exercer son ministère et donc il est comme un laïc, c'est-à-dire un baptisé de l'église, un baptisé lambda. Voilà. Il peut pas faire autre chose que ce que fait un baptisé.
D'accord, ça veut pas dire les laïcs, c'est l'ennemi.
Non, pas du tout, mais parfois, il y a cette confusion, en effet.
D'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti en entendant le témoignage de cet homme? Ça a des résonances sur vous, forcément.
Oui, alors moi, c'est pas du tout une démarche philosophique, même si j'ai fait de la philo pour commencer. Mais non, pour moi, c'est vraiment existentiel et spirituel ce que j'ai vécu. Mais en revanche, évidemment, il y a une résonance dans le fait que c'est très compliqué de dialoguer en église. C'est-à-dire que, en gros, si on dit voilà, le célibat me rend pas heureux, personne va essayer spontanément de se dire ah bon, ok, comment ça devient, qu'est-ce qui se passe, etc. On dit oula, tentation, est-ce que tu pries bien, est-ce que c'est que t'es pas trop médiatique, est-ce que c'est pas le burn-out. C'est-à-dire il y a donc un problème puisque tu ne veux pas ou tu ne peux pas tenir le célibat. C'est que t'as un souci. C'est très rare de trouver quelqu'un qui dit « Ah ok, parlons-en ».
Donc c'est tabou.
Ah oui.
Bon, ça vous est arrivé d'envier, je ne sais pas si on dit ça, vos collègues pasteurs protestants qui eux sont mariés, hein?
En fait, le job de pasteur, c'est assez différent que le ministère
de
prêtre.
Le job de pasteur. On ne dit pas le job de curé.
Non, mais on pourrait, c'est une activité aussi.
Eh ben oui.
C'est quand même assez différent dans l'approche. Cela dit, en effet, on voit bien que les pasteurs sont pas moins disponibles et c'est un bel exemple, mais pas besoin d'aller chercher plus loin que l'Église catholique, puisque dans sa partie orientale, les prêtres peuvent se marier. Ouais. Bon, par exemple, au Liban, en Syrie, en Irak, en Jordanie, etc. C'est des pays où les prêtres catholiques peuvent être mariés ou célibataires. Et donc le pape a des prêtres mariés et des prêtres non mariés sous sa responsabilité.
Bon, alors, si les prêtres pouvaient se marier ici, en France, est-ce que ça pourrait répondre à la crise des vocations?
Je suis pas sûr. En revanche, ça bouleverserait une représentation, et notamment une sorte de structure cléricale qu'il y a dans l'Église. Et donc, c'est ça qui attirerait, à mon avis, plus de vocations. C'est pas le fait qu'on puisse se marier, c'est le fait que l'Église soit plus dans l'ordinaire des gens et vraiment les touche plus, les concerne plus, rejoigne selon l'Évangile.
Parce qu'il y a quand même quelques valises lourdes, des valises historiques que porte l'Église catholique, à commencer par son soutien aux pires monarchies de l'Ancien Régime, l'Inquisition, l'évangélisation d'Amérique du Sud, on sait ce que ça veut dire, la complicité avec les régimes fascistes d'Argentine ou du Chili, entre autres, des collabos planqués dans les monastères. Pourquoi on retrouve l'Église dans les mauvais coups, et notamment dans ces mouvements qui sont, et aujourd'hui encore, réactionnaires, quand on propose à des homosexuels, des droits nouveaux.
Oui.
Il y a quelque chose d'humaniste là-dedans, je sais pas si...
C'est très beau.
Bon, enfin, en tout cas, c'est humaniste, au moins humaniste, et l'Église doit être humaniste. Mm. Pourquoi elle est en réaction contre ça?
Non, mais elle l'est,
en fait. C'est une question faussement naïve.
En fait, vous savez, on avance là où on regarde. Et si on veut regarder ce que l'Église a mal fait, déjà, il faut s'entendre avec Église, on va trouver plein d'exemples. Mais on va voir aussi la création des hôpitaux, des universités,
l'abbé Pierre,
Mère Teresa, mais plein de gens et surtout plein de chrétiens qui au quotidien changent notre société, la bouleversent par l'affection, l'amour, l'engagement dans les associations, même les élus, etc. Donc voilà, il faut peut-être pas caricaturer. Cela dit, là où je vous rejoins, c'est que la partie visible aujourd'hui de l'iceberg, c'est une partie qui se rigidifie, qui se durcit, et on sent qu'il est plutôt en réaction. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a des trucs à défendre.
C'est réactionnaire.
Voilà, on a l'impression qu'on a quelque chose à défendre, alors qu'en fait, on a quelque chose à proposer. Et simplement, ça fait peut-être moins parler, même au niveau médiatique, c'est toujours un peu moins sympa d'avoir quelqu'un de génial que d'avoir quelqu'un de brutal. Mais de fait, il y a une vraie brutalité aujourd'hui par certains membres de l'Église. Mais ceux-là, ils fleurissent nos tombes. C'est-à-dire que oui. Voilà ce qui serve est déjà mort. Et ils y passent beaucoup d'énergie, de temps, et même parfois ils mettent des dons exceptionnels au service de ce qui est déjà passé.
Vous avez lu le Henri Tinck, La grande peur des catholiques de France ?
Pas encore.
Pas encore. Vous en connaissez quand même la thèse globale.
Oui, oui.
Les regrets de Tinck, qui dit que l'Église serait en train de perdre l'héritage de ce qu'on appelait les cathos de gauche. On n'a pas parlé de cela. C'est intéressant. Ceux qui ont résisté sous l'occupation, ceux qui ont adhéré aux valeurs de la République, ceux qui ont mené des combats sociaux d'après-guerre, des politiques, des syndicalistes comme Edmond Maire,
bien sûr.
Jacques Delors. Il semble qu'aujourd'hui, les catholiques voudraient ignorer leur héritage. Alors, vous avez déjà donné une réponse en disant qu'il y a le côté visible, qu'il n'est pas à l'odeur de l'Église, et le côté qu'on voit moins, qui lui serait à l'odeur de l'Église. Mais vous comprenez quand même ce que dit Tinck et ce qu'il ressent ?
Oui, je comprends bien. En fait, vous savez, vivre, c'est changer. Et Newman, c'est un auteur que j'ai étudié, dit « être parfait, c'est avoir changé souvent ». Et il le dit de l'Église. Ceux qui ne veulent pas que l'Église change, c'est des gens qui sont morts. Et le pape, une fois, c'était une autre fois, j'ai eu la chance de le voir et je lui avais dit, mais il me dit, c'est bien que vous vous apportiez de la nouveauté, etc. Parce qu'on était avec notre groupe de musique qui est un peu original, c'est le groupe Glorious.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un super groupe de musique, il faut aller voir ça sur YouTube. Et voilà, c'est ceux qui animent l'église où j'étais et qui continuent. Et je lui dis, mais c'est pas si facile de faire bouger les gens, quoi. Il y en a qui veulent pas. Et il me prend la main, il me dit, David, tu sais où ils sont les gens qui changent jamais? Au cimetière. Et voilà, donc on ne peut pas arrêter ça. En revanche, et Tinck en est sûrement aussi le témoin, il y a énormément de gens qui s'engagent avec zèle au plus près. Vous savez, quand le pape nous a encouragés à accueillir des réfugiés dans nos paroisses, vous savez combien de paroisses ont accueilli des réfugiés ? C'est hallucinant, quoi.
Je voudrais aborder aussi avec vous ce problème, alors pour le coup très grave, de la pédophilie chez certains ecclésiastiques. Ça vous blesse, évidemment, j'imagine. Comment vous ressentez ça et comment vous avez ressenti cette actualité-là quand vous étiez prêtre? Enfin, prêtre officiel, puisque vous l'êtes encore, mais différemment.
Le fait qu'il y ait des prêtres pédophiles, c'est juste quelque chose d'affligeant. Peut-être que la question du célibat ici peut être intéressante d'un autre point de vue. C'est qu'avec le célibat, on pense qu'on a des gens purs.
Oui.
Et je me souviens de prêtres qui disaient au moment où sont sorties les affaires de pédophilie, c'est scandaleux parce que le prêtre doit être un exemple de Jésus, doit être quelqu'un qui est absolument fiable, etc. Mais non, le prêtre c'est un homme,
oui.
Et il y a des hommes tordus, et il y a des hommes qui ont des phases dans leur vie qui sont pas bonnes, etc. Et il vaut mieux se dire, eh ben oui, c'est possible qu'il y ait des prêtres qui aient des comportements dramatiques, condamnables, criminels, etc.
Ah, oui.
Et si on le dit, ça montre que la plupart des prêtres, avec leur humanité, ils essayent de vivre leur ministère de manière exemplaire.
Dernière question qui ressemble un peu à une formule. Vous êtes resté prêtre tout de même ou redevenu simplement chrétien?
Alors, dans mon âme, je suis prêtre. Voilà, c'est comme ça, on ne me l'enlèvera pas. Et puis, j'ai la chance d'avoir une épouse qui honore ça. Mais dans mon activité, j'essaie de mettre en œuvre tous les dons que j'ai reçus au service des gens que je rencontre, notamment par le coaching aujourd'hui, puisque c'est mon activité actuelle.
Un blog sur lequel on peut vous suivre, vous lire,
oui,
vous entendre.
DavidGrea.com, tout simplement.
Oui.
C'est un blog où j'essaye de continuer à proposer des méditations, mais aussi à présenter ce que je fais comme coaching.
Bien, merci infiniment. Père David Grea, je vous appelle comme ça, puisque vous signez votre livre de nouvelle vie de cette façon, Le mariage des prêtres, ça c'est le sous-titre, ou celui sur le bandeau, La révolution du pape François, c'est un point d'interrogation. Merci beaucoup, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
C'était Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Intramuros, une fiction écrite par François Luciani, réalisée par Cédric Ossir et Al Nuro, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui, Élise Christophe et Nicolas Slimani.